Dieu est pour nous un refuge et un fort, un secours toujours offert dans la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre bouge et quand les montagnes basculent au cœur des mers. La détresse. J'ai intitulé notre réflexion ce matin « Visage multiple de la détresse ». Vous la connaissez. Peut-être la semaine dernière, peut-être aujourd'hui, ou ce sera demain ou la semaine prochaine. La détresse. L'expérience de détresse fait partie intégrante de la vie ordinaire. Il est quasiment impossible d'y échapper. C'est ainsi que l'on lit maintes fois dans les psaumes, et des pages de citations, que nous lisons maintes fois dans les psaumes. Pitié, Seigneur, je suis en détresse. Le chagrin me ronge les yeux, la gorge, le ventre. Les visages de la détresse sont multiples. Cela peut être la faute, la cause, comme David et Bathsheba, comme on a appris ces derniers temps. La persécution, la maladie, la mort, la pauvreté, et encore le sentiment plus poignant encore, le sentiment d'être abandonné par Dieu. Seigneur, pourquoi t'y as-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu dans les temps de détresse? Vous le connaissez. Nous le connaissons. Des temps de détresse sans réponse. Seigneur, pourquoi te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu dans le temps de détresse? L'expérience de Jésus face à la crucifixion est très instructive, très instructive. Nous lisons en Marc 14, 30 et 31, Jésus commença à ressentir frayeur et angoisse. Jésus, mon âme est triste à en mourir. Et puis, encore plus poignant, sur la croix, il pria, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous l'avez prié aussi, certainement. Peut-être avec moins de drame, le sentiment d'être oublié ou abandonné par l'Éternel. Quand on pense à notre Seigneur, la première des choses qu'on constate, il était un être humain comme vous et comme moi. Il avait faim, il avait soif, il pleurait, il se réjouissait. Il se demandait pourquoi Dieu semble-t-il si loin de lui, au moins une fois dans le jardin Gethsémané. On apprend au moins trois choses de l'expérience de Jésus. Il est le modèle. La détresse en soi. La détresse en soi. Il y a toutes sortes de détresses. Mais la détresse en soi n'est pas fautif. C'est pas la conséquence d'une transgression. Nous ne sommes pas de ceux qui pensent que Jésus est tombé dans la transgression. Et s'il est angoissé, si la frayeur est là, s'il est triste à en mourir, c'est pas à cause d'une transgression. C'est à cause de sa nature humaine. Il la partage à 100% avec nous. à 100%. Et son exemple est très instructif. Les détresses en soi n'est pas forcément fautive. Il se peut que vous soyez en détresse ce matin. Probablement. Il y a des petites détresses et des grandes. Et on ne sait pas forcément la raison pour laquelle. À moins que ça soit comme David. Il a bien compris, grâce à Nathan, qu'il a bien transgressé la loi de Dieu. Deuxième chose, la détresse est bien réelle. Il ne faut pas sous-estimer la force de la détresse. Et la détresse est probablement universelle. On le voit dans le visage de certaines personnes. Et nous le voyons aussi parfois dans les miroirs. On est fatigué parce qu'on n'a pas bien dormi. La tête tourne, on a du mal à s'endormir. La détresse est bien réelle, il ne faut pas le nier avec les termes psychologiques. Troisièmement, la réponse efficace à la détresse ne se trouve qu'en Dieu. Bien que Jésus dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est un sentiment. Je ne pense pas qu'il plaisante. Mais ce qui compte n'est pas forcément ce qu'il a dit en premier, mais ce qu'il a dit en dernier. Vous vous souvenez de ce qu'il a dit en dernier ? Ce n'était pas « pourquoi, pourquoi ?» Il dit « Père, Père. » Entre tes mains, je remets mon esprit. Et peut-être c'est la réponse la plus classique et la plus importante. Ce n'est pas forcément d'avoir compris, mais de pouvoir dire, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Visage multiple de la détresse. Il y en a un paquet, comme j'ai dit, des pages de citations, des psaumes, toujours dans les psaumes, où l'expression en détresse ou parfois le malheur s'est traduit différemment selon la traduction. Mais le fond est le même. On est en difficulté et on n'a pas de réponse. La réponse, la réaction à la détresse le plus répandue, c'est se plaindre, les plaintes. Les visages de plainte qui résistent fort à la compréhension humaine. Si je pouvais comprendre, le problème sera à moitié résolu. C'est Job, c'est son histoire. Avant l'épreuve, il était un homme juste et parfait, nous lisons en Job chapitre 1er. Et quand il a tout perdu, y compris la compassion de son épouse, le Seigneur a repris, béni soit le nom de Dieu. Amen. Mais au chapitre 3 et 5, maudit soit le jour où je suis né. Maudit soit le jour où je suis né. Est-ce que c'est la même personne? Eh oui. Eh oui. Et Job est face à une détresse qui dépasse sa compréhension. Il n'a pas de réponse. Et parfois, comme vous et moi, et peut-être ce matin, avez-vous une plainte sans réponse. On n'a plus de questions que de réponses. Psaume 74. Pourquoi Dieu toujours nous rejeter? Pourquoi rester furieux contre le troupeau dont tu es le berger? Souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi de moi. Il y a longtemps que tu l'as acquis. Souviens-toi de ces tribus qui t'appartiennent et que tu as rachetées. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu as fait ta demeure. Monte jusqu'à ce lieu toujours en ruine. L'ennemi a tout saccagé dans le lieu saint. Tes adversaires ont poussé le hurlement à l'endroit même de ta présence. Ils y ont placé leur bannière comme des boucherons qui brandissent leur hache dans une forêt. À coups de hache et de pioche, ils ont fracassé toutes les sculptures. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire, jeté à terre et souillé la demeure qui t'appartient. Ils se sont dit qu'ils allaient incendier ensemble tous les lieux de rencontre avec le Dieu dans le pays. On ne voit plus les signes de ta présence. On ne voit plus les signes de ta présence. Il n'y a plus de prophète. Et il nous est pas donné de savoir jusqu'à quand cela va durer. Nous ne savons pas toujours à l'avance les détresses qui nous guettent quand elle aura pris fin. Il faut vivre parfois dans l'inconnu. Mon Dieu, combien de temps encore l'adversaire, la détresse, te provoquera-t-il? L'ennemi se moquera de toi sans cesse. Pourquoi restes-tu les bras croisé. C'est le psaume 74. Il y a un autre aussi poignant, le psaume 77. Je m'adresse à Dieu pour crier ma plainte. Je m'adresse à Dieu pour qu'il me prête attention. Quand je suis dans la détresse, je cherche le Seigneur. Sans relâche, la nuit, ma main se tend vers toi. Je refuse qu'on me console. C'est notre expérience par moment. Dans la nuit, on tend la main vers le Seigneur, mais on refuse d'être consolé. Je pense à Dieu, et je pousse des gémissements. Je réfléchis et la vie m'abandonne. Tu m'empêches de fermer l'œil, Seigneur. Je me trouble et je ne sais plus que dire. J'évoque le lointain passé, l'an dernier. Il y a 10 ans, je pense au temps d'autrefois. Je passe la nuit à réfléchir. Je médite et je cherche à comprendre. Le temps de bénédiction, le temps sans souci, sans angoisse. Le Seigneur rejettera-t-il toujours six questions? Ne sera-t-il plus jamais favorable? A-t-il cessé pour toujours d'être bon? N'a-t-il désormais plus rien à dire? Dieu a-t-il oublié de faire grâce? Dans sa colère, a-t-il fermé son cœur? Je me dis, ce qui me fait souffrir, c'est que la manière d'agir de Dieu, très haut, a changé. Probablement, nous sommes tous passés par des moments de détresse et de plainte. les psaumes en sont pleins. Et quand vous lisez le psaume, vous voyez combien de fois on se sent entouré d'ennemis, abandonné, pas forcément par Dieu, mais on arrive jusqu'à là. À force d'être privé d'un certain nombre de réconfort, on pense que effectivement Dieu est en vacances. Il ne pense plus en moi. Heureusement, ce n'est pas le seul visage de détresse dans les psaumes. Et aussi le visage de courage. Donc, je ne veux pas vous laisser avec l'idée que la vie n'est qu'un problème de détresse. Je lis dans le psaume 73. Et sans un contexte où la personne qui nous rédige ces lignes a constaté que ses voisins, qui ne connaissent pas Dieu et qui s'en fichent de Dieu, peut-être sont-ils même méchants, mais ils prospèrent. Ils ont une carrière merveilleuse. Ils ont des enfants, ils ont des voitures, ils ont des vacances, et moi. J'ai pas de compte d'épargne. Je vis au jour le jour. Ainsi de suite. Il faut relire une autre fois, psaume 73. Mais je lis la fin de ce psaume à partir du verset 21. Quand mon cœur était blessé, quand j'étais profondément déchiré, j'étais jaloux de ces gens qui réussissent. Je me sentais privé de la grâce de Dieu. Verset 22, j'étais stupide. Je ne comprenais rien. J'étais comme une bête devant toi. Nous sommes parfois stupides, comme une bête devant Dieu. Pourtant, je suis toujours avec toi. Tu m'as pris par la main, te guide comme tu veux, puis tu me recevras avec honneur. Sur la terre, je ne désire que toi, et au ciel, qui d'autre sera à moi? Mon corps et mon cœur peuvent être usés, mais Dieu est mon solide rocher et mon trésor pour toujours. Ceux qui s'éloignent de toi perdent la vie, tôt ou tard. Tu détruis tous ceux qui t'abandonnent. S'éloigner de Dieu, c'est la folie. S'opposer à Dieu, c'est la stupidité absolue. Ce Dieu qui nous aime, qui nous recherche et qui est là à notre écoute. Et Jésus a compris cela même sur la croix, dans une douleur extrême. Entre tes mains, Père, je te remets ma vie. De son mais je termine ce visage de courage face à l'épreuve. Mais mon bonheur à moi, c'est d'être auprès de toi. Seigneur Dieu, j'ai mis ma confiance en toi. Ce sont plus que de belles paroles. Nous avons dans notre langage évangélique, j'ai confiance en Dieu. C'est une affirmation tout à fait biblique, mais souvent à la légère. La confiance n'est pas maîtrisée une fois pour toutes. On pense que si, à force d'obéir, je vais grandir dans la foi au point où je n'aurai plus de doute, plus de doute et plus de questions. C'est pas possible. aussi longtemps on sera en vie. Le visage de courage est lié, si j'avais le temps, je le ferai ce matin, mais lié souvent à ce visage de courage, c'est la reconnaissance. Beaucoup de fois, dans le son, la personne a crié et Dieu a exaucé. Quand je t'appelle au secours, mon Dieu, réponds-moi, toi qui rétablis mon droit. Quand j'étais dans les détresses, tu m'as rendu la liberté. Accorde ta grâce, écoute ma prière. Il ne faut pas oublier de remercier le Seigneur pour ce qu'il fait pour nous, dans les choses ordinaires, dites banales, comme dans des grandes choses. J'ai quelques amis athées, parfois on parle de la vie, et ce que je constate, le Seigneur est plein de compassion pour ces personnes. Ils ont raison de dire merci à Dieu, mais à force de ne pas le connaître, hélas, ils n'ont personne à remercier. Imaginez ça, d'être le récipient des cadeaux multiples et on n'a personne à remercier. Ça, c'est le sort des athées et des personnes qui s'opposent à Dieu. Je ne crois pas que vous êtes parmi ceux qui s'opposent à Dieu. Vous êtes là certainement ce dimanche matin parce que vous attachez à Dieu. Merci Seigneur. Il y a encore des croyants qui croient et qui préfèrent passer le dimanche matin avec les frères et sœurs en Christ que de faire du vélo ou d'aller à la plage. Je ne dis pas pour cela que ça soit mauvais de faire du vélo ou d'aller à la plage. Mais il y a un temps pour tout. Et le temps qui coûte, c'est le temps pour Dieu. Il faut qu'il soit le premier, et pas le deuxième. Il faut lui donner beaucoup de place. Il est bon de commencer la journée devant le Seigneur, de prendre le temps de prier, de remercier, de prendre le temps de plaindre. Eh oui, vous avez le droit de plaindre, mais vous avez aussi droit à la réponse. Et la plainte ne doit pas encore susciter des plaintes. Faites vos plaintes. Et en même temps, recherchez la face du Seigneur. Le silence. Le silence. Quand tu veux prier, tu entres dans ta chambre, tu fermes la porte et tu pries ton Dieu, ton Père, qui t'écoute. Peut-être le fait qu'il t'écoute, c'est déjà la réponse. Parce qu'on pensait, on était abandonné, délaissé, ignoré, oublié. Je ne peux pas interpréter tout ce que Jésus a dit sur la croix, mais je sais qu'il était en détresse, angoissé, effrayé, et je comprends pourquoi il prie Seigneur, mais je comprends encore plus pourquoi en dernier dit, Père, entre tes mains, je remets ma vie. Bon, il allait mourir littéralement. Peut-être l'épreuve par laquelle vous passez, en quelque sorte, vous encourage à vous plaindre. Comme Jésus. Je ne peux pas qualifier cela tout à fait comme une plainte. Je crois que c'est une réalité. Enfin, quand Jésus a dit ça. Il cite un texte, psaume 22. Il y a beaucoup de manières d'interpréter pourquoi il a cité ce texte. Et c'est pas forcément que qu'on doit prendre cela à la lettre. Il savait trop bien que le Père ne l'avait pas abandonné. Mais entre ce qu'on sait et ce qu'on ressent, il y a une grande différence. Quand je dis à mon épouse, est-ce que tu m'aimes? Bien sûr, je t'aime. Mais il se peut que ma manière de parler, de me comporter, lui donne l'impression, mais oui, d'accord, mais c'est pas ce que je ressens. Ça ne change pas la réalité. Je peux te dire, sans réticence, je t'aime. Peut-être, dois-je changer mon comportement pour qu'on soit convaincu. Dieu est pour nous un refuge et un fort, un secours toujours offert dans la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre bouge, quand les choses vont mal, et quand les montagnes basculent au cœur des mers. Oui, Seigneur, c'est toi mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Il ne t'arrivera pas de malheur. Aucun coup ne menacera ta tente, car il chargera ses anges de te garder en tous ses chemins. C'est le psaume 91, cité dans Matthieu, chapitre 4, verset 6, au sujet de Jésus. Et quand on lit ce texte, on dit, d'accord, il ne t'arrivera pas de malheur. Aucun coup ne menacera ta tente, car il changera ses anges de te garder en tous ses chemins. Ça, c'est la citation du diable, de Satan. Tu marcheras sur le lion et la vipère. Tu piétineras le tigre et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le libère. Je le protégerai, car il connaît mon nom. S'il m'appelle, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le comblerai de longs jours. Je lui manifesterai mon salut. À force de lire les psaumes, on constate que c'est un langage poétique. C'est un langage métaphorique. Et quand il dit « pour que ton pied ne heurte pas de pierre », c'est au sens métaphorique, mais qui a derrière cela une réalité, la croix. Ce texte est cité par rapport à Jésus, qui est crucifié, sans parler de « ton pied ne heurte pas de pierre ». Et quand on lit les psaumes, on comprend que ce langage poétique et métaphorique est encore plus riche que le littéral. Je ne sais pas si vous avez une préférence pour la prose ou pour la poésie. Je préfère la poésie. Mais je dépends de la prose aussi. Et ce que j'aime, c'est un auteur chrétien décédé il y a plus d'un siècle, que je lis souvent parce qu'il parle un langage métaphorique qui me transporte au-delà des choses visuelles. Et ce que je trouve avec le Seigneur nous aime, le Seigneur vous aime. Peut-être êtes-vous en difficulté ce matin et vous avez en quelque sorte raison de vous plaindre. Mais n'oubliez pas, Malgré la crucifixion, il y a aussi la résurrection. Et Dieu, en son temps, fera ce qui est nécessaire. Notre devoir n'est pas de tout savoir, mais de tout lui confier. Et de toujours dire merci. Prions. Père, merci ce matin de nous rappeler ton Fils qui nous précède, qui nous guide, qui nous montre le chemin vers toi. Seigneur, aide-nous lorsque nous sommes en difficulté, dans la détresse, sans réponse. Seigneur, que tu sois notre réponse. Bien que nous ne comprenions pas, bien que on ne sait pas au combien de temps ça va durer, aide-nous, aide-moi à faire confiance à toi. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton amour, ta grâce et ta patience avec nous. Travaille nos cœurs à la gloire de ton nom. Amen. Amen.